Donc on passe au Sefer Shemot. Le Sefer Bereshit, on a terminé. Il nous a donné tous les éléments qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans le Sefer Shemot. Le Sefer, il ouvre en énumérant Jacob et ses enfants. Tout ça, on l'a vu les autres années, je vais sauter ça. Et je voudrais commencer au Passouk Vav et Zayin du premier chapitre. Effectivement, peut-être, oui, c'est ça. Vayamot. Dans le passouk, on dit que Vayamot Yosef v'chol echav v'chol ador ahou. Et vous venez Israël. Et donc Yosef est mort, tous ses frères aussi, toute la génération. Ubnei Israël, et néanmoins les Bnei Israël, paru, vaishritsu, vayirbu, beyatzmu, bimeod, meod. Donc quand vous lisez ça, vous avez le goût de la matzah dans la bouche. Mais voilà, les Bnei Israël, il y a eu une explosion démographique en français. Avec le passouk, qu'il utilise des termes qui sont surprenants, bah, yishretsu, ils ont pullulé, c'est vraiment, ils sont devenus très 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 puissants. C'est marqué bimeod meod. Le gars nous dit que meod dans la Torah, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors bimeod meod, meod, c'est les lettres de Adam. C'est et le pays était plein d'eux, c'est-à-dire ils étaient partout. Ils sont pas restés dans la province de Goshen, ce que en fait Yosef leur avait demandé. Alors, je voulais voir avec vous un enseignement que je découvre plus ou moins cette année. C'est un enseignement de Rabbi David Feinstein. Rabbi David Feinstein, c'était le grand-fils de Moshe Feinstein, le grand Possek, qui était lui-même un très grand Possek, Rav David, assez génial, qui malheureusement, bon, n'est plus de ce monde. Et voilà comment lui, il lit ce verset. Il dit, a priori, dans le verset, on voit que ce n'est que après la mort de Yosef que les Bnei Israël ont commencé cette espèce d'explosion démographique. Tant que Yosef était vivant, donc ça a duré assez longtemps, à peu près soit plus de 70 ans, 71 ans, depuis le moment où Jacob est descendu en Égypte, jusqu'à la mort de Yosef, pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas vraiment explosé. Ils se sont reproduits probablement, mais tout à fait normalement. C'est surprenant que jusqu'à la mort de Yosef, en gros, c'est comme s'ils étaient encore chez Shivim Nafesh. Ça veut dire que il s'est rien passé d'extraordinaire. Vadaï, c'est sûr que c'est pas resté comme ça. C'est sûr qu'ils ne sont pas restés vraiment à 70. Mais l'expliquer, donc il faut entendre ici, Vayamot Yosef, c'est comme on a dit, c'est les noms des Shvatim qui sont mentionnés, les noms des tribus qui sont mentionnées ici ont été répétées ici alors qu'ils avaient déjà été énoncés dans Sefer Bereshit, pour nous enseigner que le contenu de leur nom, le nom, ce contenu n'a pas été perdu par les Bnei Israël en Égypte. Donc c'est cette fameuse idée de ils n'ont pas changé leur nom. Pas changer le nom, ça veut dire ils ont conservé des noms qui, ces noms, ils avaient une signification bien précise quand ils ont été donnés par Rachel et Léa et par Yaakov. Et donc c'est, ils ont gardé cette signification-là. Donc, en fait, ils ont vu que si on leur avait demandé, on leur avait posé la question qu'on a posée à Caïn, alors ils ne auraient pas évidemment répondu à Shomer Achi Anochi, ils n'ont pas répondu est-ce que je suis le gardien de mon frère? La tchouva est, ils auraient dit, oui, je suis le gardien. Shomer Achi Anochi. Je suis le gardien de mon père. Donc, il y avait une solidarité très, très forte entre eux. C'est ça le contenu des noms des Shvatim. Et brusquement, Yosef meurt. Et le roi d'Égypte dit que tout ce que j'ai entendu concernant ces gens-là qui sont très solidaires, qui s'aiment les uns les autres, qui s'aident les uns les autres, et qui ne pensent pas chacun pour soi seulement, c'est ça le icard de la halakha d'ailleurs, mais ils pensent pas seulement à eux, non, pas seulement entre eux, mais aussi au monde entier. Puisque Yosef, il a sauvé le monde entier avec cette histoire de conseil qu'il a donné à l'Égypte. Tout le monde est venu s'approvisionner en Égypte. Il a pas seulement, il s'est pas seulement occupé de sa petite famille. Mais immédiatement après la mort de Yosef, les Égyptiens ont regardé les Bnei Israël et ils ont dit, Yosef est mort. C'est-à-dire, c'est terminé. Ils n'ont plus cette mida, ils n'ont plus cette qualité qu'ils avaient jusqu'alors. Maintenant, nous voyons chez eux qu'en fait, ils s'occupent que d'eux. Ils n'ont plus cette mida, cette qualité qui était la qualité de Yosef, qui était de s'occuper de tout le monde. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont vu les Égyptiens pour tout à coup changer la vie? Et là, Abdovid, il dit qu'ils ont vu que les Bnei Israël, quand ils ont regardé, ils voyaient que Kol Echad Doeg Rak Al Atzmo, chacun ne s'occupe que de lui, s'occupe pas du bien-être du pays. Et là, tout à coup, Ukmoshe Ubizmaneinu. Et il dit, c'est comme maintenant. Chez les médecins, les avocats, les juifs, ils sont parmi nous. Ils travaillent pas pour le bien-être de l'État, de l'Amérique. Il est à New York. Emrak ovdim le manasmam. Ils travaillent que pour eux. Pour amasser des grandes richesses. La raison, c'est que À ce moment-là, dit Kayem, Mashekatouv. C'est ça qui est écrit. Ubnei Israël paru, va Ça veut dire qu'ils sont devenus très puissants. C'est-à-dire ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Ve'aliyedei vatmalei otam. Ils ont rempli les marchés d'Égypte avec leurs magasins à eux. Parce que si, évidemment, s'ils n'avaient des magasins que pour fournir les gens à Goshen, ils n'auraient pas pu faire tout l'argent qu'ils ont fait. Donc ils ont ouvert des magasins dans la 5e avenue de, je sais pas où, comment ça s'appelle, de Thèbes ou de Memphis, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire comme affaire? Si on reste à Goshen. Au début, ils étaient seulement 70. Mais après, ils étaient 1000. C'est pas terrible, c'est rien du tout, 1000. On ne peut pas faire beaucoup d'argent avec 1000. Aderecha yichida hi, l'archiv. Il faut ouvrir les limites, en fait. Ils ont rempli la terre. Ils ont ouvert des magasins au milieu de l'Égypte. Voilà. Là-bas, ils ont pu grandir et s'enrichir. C'est le chemin de Vayatsmu Bimeod Meod. Comment ils sont arrivés tellement puissants? Al-Ede Vatmale Otam. Et à ce moment-là, Ayu Proutsim, la Sviva, Mikol Tsad. C'est-à-dire ils sont entrés partout dans toute l'Égypte. Comme aujourd'hui. Ah, tu peux ouvrir, si tu veux gagner un petit peu, tu peux ouvrir un magasin. Ah, dans le Lower East Side. C'est là qu'il habitait d'ailleurs. Aval, mais si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut aller au milieu de la ville, il faut voir pour ouvrir des grands magasins. Là-bas, tu vas gagner beaucoup. Quand les Égyptiens ont vu chez Anagad Bnei Israël, Loaita Bechanouyot, Aktanot, Bezorim Shelahem. Quand les Égyptiens ont vu que les magasins des Juifs n'étaient plus confinés à Goshen, c'est-à-dire chez eux, entre eux, ils n'étaient plus seulement dans le East Side. Là-bas, qu'est-ce qu'on pouvait faire là-bas? Ils vendaient des vêtements et des petites choses. C'était bien. Mais quand ils sont sortis au milieu de la ville, ils ont rempli le pays, ils sont allés là où étaient les Égyptiens. Maintenant, les Égyptiens ont dit, maintenant on voit. Shelo, Kavanatan Kolazman, le Tovataklal, Kim le Tovatatsmechem. Vous n'avez plus le souci du bien-être de tout le monde, mais seulement de vous-même. Et quand ils ont fait ça, alors ils ont commencé à l'itraroutimamitsrim. Ils ont commencé à la concurrence, faire la concurrence aux Égyptiens. Alors, si tu es un petit boucher qui vend de la viande cachère, qui coûte beaucoup plus cher que la viande pas cachère, il s'est vraiment complètement lâché. Il n'y a pas de concurrence. Qu'est-ce que tu vas déjà faire de concurrence? Tu vas ouvrir une boucherie à côté de la boucherie de l'autre. Mais si tu entres dans la viande dans la vente de la viande pas cachère, alors donc, tout le monde va pouvoir manger. Alors, ta matrilée travaute. N'est-ce que nous? Les Égyptiens, ils disent, là, maintenant tu commences à vendre de la viande pas cachère, donc tu nous fais de la concurrence à nous. Si tu restes, vous restez dans votre Goshen là-bas, si un médecin ou un avocat dans ton petit domaine, alors ta voix là-bas, Alechem Bracha, bénédiction. Mais si vous entrez dans notre domaine, nous, Égyptiens, alors tu viens nous faire la concurrence, et dès le moment où vous sortez, Ariata Nimsa Besakana. Ah, là, tu risques de, tu es très en danger parce que tu peux perdre ton identité. Tu vas peut-être même épouser une femme non juive. Et quand les Bnei Israël se sont rapprochés des Égyptiens, alors, ils ont été obligés de nous repousser. Sinon, Yachol Liot, Itkayem, Shidur, Benenu. Vim, Anachnu, Mitrachkim, Mehem, Azem, Mitrachkim, Meitanu. Si on s'éloigne, ils s'éloignent de nous. Mais si on se rapproche d'eux, ils vont être obligés de nous repousser. Alors il dit, Ashkafa zu shona lechalutin mizo shel Yosef. Cette façon de voir, cette façon de réfléchir est complètement différente de celle de Yosef. Quand Yosef a donné le conseil à Paro, il lui a expliqué son rêve. Il lui a dit, Ata, maintenant, irai Paro, que Paro choisisse, Ish Navon Vechacham, un homme intelligent, sage. De lo ishtadel le malet atafkid azeh be'atzmo. Ki kol kavanato aita le man atzalat haolam min harav. Qui ne fasse pas ce travail uniquement pour lui-même, mais qu'il ait le souci du monde entier pour éviter une famine au monde entier. Les Égyptiens, ils n'ont pas pensé comme ça. Qui aime Raoul chez Yosef, qui belle Tovot Arbe Bisman Eyoto Amishnel Melech. Ils ont vu que Yosef, il avait beaucoup de privilèges quand il était très proche du roi, quand il était vice-roi. Évidemment, il avait des privilèges. Il habitait dans un grand palais. Il circulait à cheval prestigieux, en fait. Il recevait tout ce qu'il voulait. Alors, bon, bien sûr, quelqu'un peut dire, Yosef, il n'a pas fait les choses lishma, il n'a pas fait les choses de façon désintéressée, il a fait les choses pour se remplir les poches. Il n'a pas fait les choses pour le bien-être de tout le monde. Mais Paro, il n'a pas vu les choses comme ça. C'est vrai que Yosef a reçu beaucoup de. Il a eu beaucoup de privilèges, mais il a pensé que si je remets Yosef dans prison, après qu'il m'a expliqué mon rêve, je le remets en prison, et que je le remette par exemple en prison toutes les nuits. Le jour, il travaille pour moi, mais la nuit, quand il travaille pas, je le mets en prison. il aurait fait les choses de la même manière qu'il les a faites aujourd'hui. Avec tout le... Aujourd'hui, il a plein de privilèges, il agit d'une certaine manière. Si je l'avais mis en prison toutes les nuits, il aurait agi de la même manière. Paro, il a compris comme ça. Il a compris que Youssef, il agissait de façon désintéressée. Mais maintenant, le nouveau Paro en question, il commence à voir que les choses sont, ah, c'est différent. C'est plus comme quand c'était Youssef qui était là, c'est lui qui dirigeait la communauté en quelque sorte. Alors peut-être que aujourd'hui ça révèle qu'on a mal vu, que Youssef déjà Youssef en son temps, lui aussi il était comme ce que je vois aujourd'hui. Alors ça veut dire, mais maintenant, Vayamot Yosef. Yosef, le Yosef qu'il voyait, il est mort maintenant. Il est mort parce que je me dis qu'il fait partie de ces gens que je vois maintenant ici. Je vois bien qu'ils ne sont pas du tout solidaires. Donc je pense qu'il vient du même peuple, que je me suis trompé. Donc pour Paro, Vayamot, Yosef, il est mort. En tout cas, ce Yosef, il n'est plus là. Et la preuve, c'est que, regarde, Vatimalea Aretzotam, ils ont rempli la terre. Remplit le pays. Ça veut dire, l'intention d'Ebné Israël, c'est uniquement de faire du fric. Parce que si leur kavana, c'était d'aider les Égyptiens, ben ils seraient restés à Goshen, avec leur petit magasin. Et maintenant que ils sont venus en plein milieu de la ville, etc., pour faire du fric, Paro a compris que leur kavana, c'était, ils pensaient à eux. À ce moment-là, il s'est dit, OK, ben, il y a un problème avec ces gens-là. Et c'est pour ça que le passouk dit, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef, un nouveau roi, peut-être une nouvelle dynastie, mais qu'il ne connaissait pas Yosef. C'est ce qu'on a dit chez Amelech Hadash, Loyada et Yosef. C'est-à-dire, il n'a pas vu le lishma de Yosef. Il a vu seulement le shelo lishma qu'il voyait à ce moment-là. Il voit que les Juifs font travail que pour eux-mêmes. Pour conquérir les meilleures positions, en fait. Finalement, ils vont jamais loyu avadim chez la nous, ils vont jamais être nos serviteurs. C'est nous qui allons être leurs serviteurs. Précédemment, dans les années d'avant, un des signes de richesse, c'était d'acquérir des esclaves. Avadav, le chiffre. Les gens, ils voulaient que tout ce qu'ils avaient à faire, ben, soit fait par les esclaves, les servants, hommes, femmes. C'est ça le inyan de Melech Hadash Asher lo yada et Yosef. C'est-à-dire, il n'a plus vu la qualité de Yosef chez les Bnei Israël qui étaient devant lui. Alors, peut-être même que il en est venu, comme on a dit précédemment, à voir Yosef lui-même différemment. Il corrige éventuellement sa vision de Yosef. Bon, si ses enfants sont tombés à à cette madriga telle que je vois maintenant, au niveau où je les vois, alors peut-être que Yosef lui-même, c'était aussi à ça qu'il pensait, seulement qu'il était plus malin et qu'il nous a tous trompés. On a tous cru qu'il travaillait pour nous, travaillait pour le bien-être de tout le monde. Et maintenant que les Égyptiens voient les Bnei Israël, et ils voient qu'ils travaillent tous que pour eux-mêmes, alors il y a un nouveau fonctionnement en Égypte, le fonctionnement de l'Oyada et Yosef. Les Égyptiens pensent à eux, ils pensent, pour eux, que Yosef lui aussi, il a commencé, voilà, il travaillait aussi en concurrence avec nous, puisqu'il avait été choisi pour être à la tête. Il a rempli le rôle de cet homme intelligent et sage qui a dirigé l'Égypte. Et si Yosef n'était pas devenu le vice-roi, alors on aurait choisi un Égyptien. Mais malgré tout, il n'y avait pas de la jalousie contre Yosef, parce que Paro a accepté de tout cœur, ce que Yosef lui a proposé, il n'y avait pas de problème. Parce que Paro, il a vu dans Yosef que Yosef serait un serviteur fidèle. Il ne va pas être un puissant qui pense qu'à lui-même. Il n'y avait pas d'argent chez lui qui ne soit l'argent qu'il a gagné honnêtement, en quelque sorte. Bien sûr qu'il vivait avec beaucoup de luxe, mais au moins, il servait l'Égypte. Et donc, les gens l'acceptaient de tout cœur. Mais maintenant, ces gens-là, ils ne servent pas l'Égypte. L'argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Ça entre dans leur poche. Et même ce que nous gagnons grâce à eux, ça nous est désagréable. Pourquoi est-ce que on devrait enrichir l'État grâce à des gens comme ces gens-là? C'est pour ça que ils ont fomenté un truc contre les Juifs d'Ibn Israël, qui travaillaient pour eux. Et donc, ils ont commencé à s'organiser contre les Bnei Israël. Ava nitrak malo, voilà. Il faut être plus intelligent que lui. Et ils ont, eux, réduit les Bnei Israël en esclavage. Justement pour éviter que ce soit les Bnei Israël qui les réduisent en esclavage. Un peu Begueder, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, c'est intéressant que sur ce Melech Hadash, Rashi rapporte la Machloket qui est dans le Midrash et dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Il y en a qui dit, on ne sait pas justement, on ne sait pas qui dit quoi. Un dit, c'est un nouveau roi, une nouvelle dynastie, qui de facto ne connaissait peut-être pas Yosef. Peut-être qu'il ne le connaissait pas. Donc il a jugé les Bnei Israël en fonction de ce qu'il voyait. Mais il y en a un autre qui pense que non. C'est le même Paro, la même dynastie. Sauf que maintenant, il révise un peu ses positions. Si on dit que Melech Hadash, c'est-à-dire chez Nitratchou Xerotav, c'est-à-dire c'est un roi qui a changé sa politique, en fait, à l'égard des Juifs. Ça veut dire qu'il a fait comme si il ne connaissait pas Yosef. Mais d'après ça, ça veut dire que Paro a pensé, il est arrivé à se dire, bien, j'ai aucune chance à Karatatov à l'égard de Yosef. Même si Yosef a sauvé l'Égypte, il m'a enrichi parce que Paro, qui était un roi normal, mais il possédait toute l'Égypte à la suite de l'intervention de Yosef. Il rive et malchouti, Mishtuta Tromesh. Ça veut dire que il a pris à peu près 20% de tout ce que les gens ont produit, il l'a pris pour lui, gratuitement. Malgré tout, je lui dois rien. Parce qu'en fait, il m'a rien fait, il a rien fait pour moi, en fait. Et je lui fais rien, je ne suis pas en train de jeter des pierres sur son cercueil. Parce que ce que je suis en train de faire, si je reconnaissais que lui m'a fait du bien, je serais vraiment en train de jeter des pierres sur son cercueil. Il peut pas nier le bien que Yosef a apporté à l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre la démarche de ce paro-là? Effectivement, si Yosef avait été un petit cordonnier et que paro lui ait demandé un conseil, et généreusement, bon, il soit intervenu pour lui, et que donc, il a fait les choses, lishma, c'est-à-dire de façon désintéressée. Et grâce à ça, il réussissait, il s'enrichissait. Alors c'est normal qu'on lui donne du kavod. Mais maintenant que il a payé, on lui a payé, on lui a donné. Pas simplement que on lui a payé, à la limite, ce qu'on appelle Sra'ar Batala, c'est-à-dire on a payé le temps qu'il a consacré, c'est-à-dire le temps qu'il a perdu en ma faveur. C'est-à-dire on a payé le minimum possible. Mais on lui a donné de quoi survivre, quoi. Il a mangé, il a vécu. Mais pas seulement ça, et au Kibel Sraro Mouchlap, il a vécu royalement. Donc je lui dois vraiment rien. Et donc il est comme quelqu'un qui. Il rentre dans une yeshiva pour travailler au bureau, pour ramasser de l'argent. Et on lui demande, alors combien tu veux être payé, c'est quel salaire tu veux? Alors il dit, je veux un demi-million de dollars. Alors on le regarde, on s'étonne qu'il est cinglé. Il lui explique. Moi, je suis capable de ramasser 20 millions de dollars pour la Yeshiva, pour l'institution. Est-ce qu'au moins, je ne dois pas recevoir au moins un demi-million, quelque chose? Alors, ils vont lui dire, mais s'il s'agissait d'un travail ordinaire, d'administration. Alors tu aurais raison. Il te vient, tu dois, tu as droit à une partie de ce qu'on a gagné grâce à toi. Mais ce n'est pas un travail ordinaire. Tu travailles pour Hachem, tu travailles dans une yeshiva. Et donc tu peux pas prendre, en fait, tu pourrais pas, tu n'as pas droit à plus que le minimum de nécessaire pour survivre. Parce que, bon, si on te donnait pas ça, tu devrais aller travailler ailleurs pour gagner ta pitance. Donc ça, tu as le droit de prendre. Et en fait, par rapport à Yosef, c'est sûr qu'il a reçu un salaire extraordinaire pour vivre royalement, etc. Mais malgré tout, Loyachai Kazé Kedeleit Paer, mais il n'a pas vécu comme ça pour lui-même. Il a vécu comme ça parce que, en tant que, pour faire le travail qu'il devait faire, c'est le vêtement de travail, à la limite. Il a fait ce que Paro voulait et il s'est plié aux conditions de vie égyptiennes. Quand on est vice-roi, voilà. Aval le balé la chonara, il y a la pitronpe. Mais les gens qui voulaient dire du mal, ils pouvaient dire quelque chose, que en fait, on ne devrait rien lui donner du tout à Yosef. Parce qu'il nous a déjà tout pris. On l'a sorti de la prison. Il est devenu vice-roi. Bien sûr, on a reconnu ce qu'il a fait. Mais on ne lui doit rien. Parce que pour ce qu'il a fait, on ne lui doit pas. Ce n'est pas pour gagner des honneurs ou pour s'enrichir. Ça, il a déjà reçu tout ça. Si quelqu'un travaille pour toi et tu lui paies ce à quoi il a le droit, alors tu ne lui dois plus rien. Tu ne lui dois pas un centime. C'est ça, Asher Loyada et Yosef, Loyada et Yosef Shehaya Kol Avodato Lishma. Ils ne savaient pas, ils ne reconnaissaient pas que Yosef avait fait les choses pour eux. Et donc, Paro a dit, nous, qu'est-ce que tous ces Juifs font là? Pourquoi ils sont là? Est-ce que quand ils s'enrichissent, c'est bien pour le pays? Si on demande pourquoi est-ce que tu veux t'enrichir à ce point-là pour ramasser des millions de dollars, on lui dit pour que je puisse payer des impôts à l'État, un demi-million. Et est-ce que tu n'apprécies pas tout l'effort que je fais? Si je n'avais pas gagné tout ce que j'ai gagné, ben, tu vois, enfin, l'État n'aurait pas reçu ce demi-million. Alors l'autre, il va lui répondre, je vois tout ça exactement d'une toute autre manière. Tu n'as rien fait pour nous. Tu as travaillé pour toi. Et les impôts que tu payes, c'est que bah, tu payes parce que tu es obligé. En fait, il y a des gens qui ne supportent pas de voir que quelqu'un puisse travailler l'ishma. Quelqu'un puisse faire quelque chose de façon désintéressée. Et ça n'existe pas, travailler de façon désintéressée. Il y a seulement l'anatra, le tovatra. C'est toujours pour ton profit, pour ton bien. C'est aussi ça, hein, cher Loyada et Yosef. Alors, dans le passouk, on dit que Paro a dit à ses gens, à son peuple, en soi, c'est intéressant de voir que Paro parle au peuple. S'imaginer un empereur romain ou, je sais pas, Staline parler au peuple. Vayomer el amo, hineh am bnei Israël, Rav ve'atsum mimenu. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses. On va voir ce que lui dit, mais regardez déjà le verset. Il parle à son peuple. Et il dit, voici. Quand on dit voici, ça veut dire que on l'avait pas vu jusque-là. Voici, c'est toujours, voilà, quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Et il les appelle Am Bnei Israël. Je crois que c'est la première fois qu'on dit d'eux qu'ils sont un peuple. Et le nom de ce peuple, c'est pas Israël, c'est Bnei Israël. Am Bnei Israël. Ils sont Rav, Ve'atsum, ils sont nombreux, ils sont puissants, plus que nous. Le plus que nous, je sais pas s'il va. Il va évidemment sur Atsum, mais peut-être est-ce qu'il va aussi sur Rav? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plus nombreux aussi que nous? Ou est-ce que le Mimenu ne va que sur Atsum? Ils sont plus puissants que nous, mais peut-être ils sont pas aussi nombreux que nous. Je veux dire, Alors, Rav David, il dit ici, En Apirush Kan, Chebne Israël alou be misparam yoter min amitsrim. C'est pas que lui dit le Mimenu, ça va pas sur Rav. Ils sont pas plus nombreux que les Égyptiens. En apirush shel milat Rav yachol liyot liish echad koach ve'atzma yoter mais à la fille ou vavot. Pas possible que un seul deviennent tellement nombreux, etc. Mais comment il faut entendre alors? Faut entendre que Oto sheyesh lo hakoach ve'haotzem ou Arav, celui qui a le pouvoir, la force, le pouvoir, c'est lui qui est le plus nombreux. Il est Rav. Alors c'est Ou Moshe la'olam, à la'olam. C'est lui qui dirige le monde. Comment est-ce que Achashverosh est devenu roi de Paras et Madaï, de Perse et de Médie? Il a acquis la royauté, il a donné des cadeaux à l'armée. Et donc, il a persuadé tout le monde de lui être fidèle et donc de conquérir le monde pour lui. C'est évidemment pas lui qui a conquis le monde. Mais les gens ont fait travailler pour lui parce que il leur a donné des cadeaux et l'impression que, voilà, il a su leur parler. Amitzrim, les Égyptiens, craignaient que les Bnei Israël fassent comme ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas tellement nombreux. Et malgré tout, ils avaient le pouvoir de la richesse. Et avec cette richesse, ils pouvaient louer des soldats, des gardiens, dans toutes sortes de peuples. Autour d'eux, de Cnan. Et puis, il pourrait éventuellement louer des mercenaires pour lutter contre nous, disait l'Égyptien. Et tout à coup, il y aura plus de gens étrangers que d'Égyptiens. Et eux, ils vont nous battre. Ils vont éventuellement nous asservir. Ils vont prendre le pouvoir sur le royaume et ils vont faire les lois en leur faveur pour gagner toujours plus. Et donc, il faut diminuer leur force. Il ne faut pas qu'ils soient libres de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'avec l'argent, ils peuvent mobiliser toutes sortes de gens contre nous. Alors, comment est-ce qu'on va diminuer leur force? De telle sorte qu'ils ne puissent pas être plus forts que nous. On va leur mettre des impôts, des taxes spéciales. On va les imposer très lourdement. On va leur mettre 100% d'impôts. Donc, comme si, en fait, ils ne travaillaient que pour l'État. Maintenant, on a la possibilité de les obliger à travailler pour nous, parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment nombreux. On va séparer les hommes des femmes, on va casser les familles, on va obliger chacun à un travail qui l'occupe tellement qu'ils ne pourront pas gagner d'argent. Tout ça, tout va leur être interdit. On va leur donner suffisamment à manger pour qu'ils puissent travailler. On va les loger. Mais en tout cas, on va leur donner rien que On ne leur donnera rien que ce dont ils ont absolument besoin. Et peut-être que on leur donnait pas du tout d'argent pour acheter quoi que ce soit. On vous livre, on vous donne. On leur amène la nourriture. On les loge gratuitement. Et peut-être qu'ils n'avaient jamais un euro en poche. Tout leur travail était un impôt pour l'État. Donc on n'a pas besoin de les payer. On a besoin de les payer pour qu'ils nous donnent en retour ce qu'on leur a donné pour avoir à manger et pour se loger. Ça, c'est la façon dont les Égyptiens peuvent diminuer leur impact. Pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter qui que ce soit. Donc maintenant, les Égyptiens ont la force. Ils ont une grande armée. Les Bnei Israël, ils n'ont rien. Ils peuvent pas d'argent et ils n'ont rien. N'ont pas d'armée et ils peuvent pas louer des mercenaires. Parce que ce qu'il a dit, Pen Yarbe, Arshav, Lanu Hakoach Vehamemshala. Maintenant, la force et le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Mais peut-être que demain, c'est nous qui serons leur pouvoir. Chazal disent que c'était pas facile pour Paro de convaincre les Bnei Israël de se laisser asservir, en fait. Il a fallu d'abord les séduire en quelque sorte. Bon, il fallait dire que toujours le Ça y est, la cité Kennedy. Ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour le pays. Bon, c'est vraiment un Américain. Un filou, Paro, disait, Paro aussi travaillait avec vous. Tout le monde on est tous égaux. Gamani, on va être Kamocha. Moi aussi, je travaille comme toi. Que tous les Égyptiens travaillaient avec eux, mais petit à petit, les Égyptiens se sont retirés. Et on est restés, nous, seuls à travailler. Ça, c'est Ava Nitrakmalo. Il faut être plus malin qu'eux, plus sage, plus intelligent. Vous avez marqué, Sarémissime. Il va y avoir des princes qui prennent des impôts. Chétil Aléem Mas Sabalagouf. Comme une mobilisation pour l'armée. On ne peut pas servir l'armée simplement en payant. On doit payer de sa personne. Il ne suffit pas, tu ne peux pas payer pour que d'autres. Ils ont été obligés d'être des soldats, c'est-à-dire, ils ont dû, avec leur corps, travailler pour l'Égypte. Et c'est ça le mas. C'est ça les impôts qu'ils ont dû payer. Et il leur a dit, j'ai terminé, en disant, il est à craindre que Kitikrena Milchama, si jamais il y a une guerre qui se déclenche, Eux aussi vont s'allier avec nos ennemis. Tout de suite, l'accusation de trahison, quoi. Venilhambanu, ils vont lutter contre nous. Ve'alaminaaretz. Ils vont quitter le pays. Ve'alaminaaretz. Alvaï shebnei Israël yetsumikan. Puisque vous ne pouvez plus les voir, alors jetez-les. Très bien, ils vont partir. Très bien. Rashi ramène ici, Gemara dans Masechet Sota, il dit que la kavana des Égyptiens a été à la mitzri matzmam. La kavana de Paro, en fait, quand il dit Ve'ala mina haaretz, c'est pas qu'il pensait que les Bnei Israël vont partir. Ce qu'il pensait, c'est que si les Bnei Israël s'allient avec nos ennemis, ils vont nous chasser, nous les autochtones, ils nous vont nous virer, ils vont nous chasser d'Égypte. Seulement, comme il était un peu superstitieux, il n'allait pas dire ça en toutes lettres. Mais en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme il y a des gens, quand ils veulent dire quelque critique de leurs enfants, on leur dit, c'est la fille de la voisine qui fait ça et ça. Paro n'a pas dit Va'alinu Minaaretz, ce qu'il pensait en fait. Pourquoi Al-Tiftach Pela Satan, je veux dire. Il allait pas dire une phrase pareille. Donc il a dit Ve'ala. Comme si il voulait dire que peut-être les Bnei Israël vont partir. Be'emet. Leur volonté, enfin, ils voulaient dire plutôt, ils vont nous virer. Paro, il voulait pas dire des choses sur lui. C'est intéressant parce que de ce fait, en ayant dit les choses de cette manière-là, Paro se trouve être le premier à avoir dit des Bnei Israël qui sont un peuple et le premier à avoir dit qu'il allait sortir d'Égypte. Finalement, c'est ce qu'il a dit. Je vais sauter un peu, parler un tout petit peu de la naissance de Moshe. On va dans le deuxième chapitre, deuxième passouk. Aisha vatelet ben, vatereoto kitovu, shlosha irachim. Donc la femme, Yocheved, était enceinte, elle a mis au monde un enfant, on a vu qu'il était tov, il était bon, et elle l'a caché pendant 3 mois. Alors il explique comme ça. Moshe Rabbeinu est né chez Amram et Yocheved, Et ils ont réussi à le cacher pendant 3 mois, comme Rachid explique, parce que les Égyptiens qui passaient dans toutes les maisons et qui prenaient les enfants pour les tuer, les garçons pour les tuer, le problème, c'est, ben, c'est pas un problème, au contraire, mon cher Abénou, il est né prématurément. Et donc, il est né 3 mois trop tôt. Et donc, pendant les 3 premiers mois de sa vie, les flics égyptiens, ils n'ont pas passé chez Amram Meyoukhevet. Mais après 3 mois, ils sont venus le chercher. Alors la technique, c'était qu'ils amenaient un autre enfant, un autre bébé, ils le faisaient pleurer, et quand un bébé entend pleurer, il pleure aussi. Comme ça, on savait qu'il y avait un autre enfant, un bébé dans la maison, et ils allaient le prendre. Alors, bien qu'ils aient vu que l'enfant n'était pas tout à fait un enfant comme tout le monde, parce que Vatere oto ki tov hu, Chazal explique, Shenit mala bait ora, la maison s'est remplie de lumière, le siman chez Aben Azé Yahir Lahem les Israël, c'était quelque chose qui montrait que cet enfant il allait illuminer les Bnei Israël. Mais on ne peut pas être sommaire là-dessus qu'il va y avoir un miracle parce que c'est un enfant spécial. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient et voilà, ils l'ont mis dans le Yehor. En d'autres termes, ils ont dit à Hachem, ben, c'est nous qui pouvons s'en occuper, c'est toi qui dois t'en occuper. Mais en fait, mais dis, j'ai déjà dit plusieurs fois que Kolma cheviyado chez la dame la asot ou chayav la asot. Ce qu'on peut faire, on a l'obligation de le faire. Et quand l'homme est arrivé au terme de ce qu'il peut faire, à partir de là, à davar masur biyadosh elaboré olam. Aya biyocholti lishmor alav bizman moat. J'ai pu le garder pendant 3 mois, un peu de temps. J'ai pu faire une boîte étanche pour lui. Je ne peux pas faire plus. C'est comme si Yochevé avait dit, cet enfant-là, il ne peut pas être protégé par les hommes. Il n'y a que toi, Ribbono shel Olam, c'est toi son chômeur, c'est toi son gardien. Fais ce que tu veux avec lui. Yochaved avait raison. Et à ce moment-là, c'est Hachem qui a pris le relais. Et il a accompagné mon cher Rabbeinu. On a venu justement au chiour de Chumash que quand Rivka a ordonné à Yaakov d'aller prendre les brachot chez son père, c'est marqué que, et donc elle a déguisé Yaakov, etc. Et elle a cuit, elle a préparé, grillé, je sais pas, elle a préparé la nourriture pour Yitzhak. Et c'est marqué qu'elle a accompagné Yaakov jusqu'à la porte d'Yitzhak. Il a dit, jusque-là, j'ai fait, c'était mon devoir, jusque-là. À partir du moment, Boracha Yakum Lecha, que ton créateur soit là pour toi. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que je devais faire, elle a dit que c'est son devoir. Maintenant, je peux plus. Je peux pas rentrer avec toi, chez ton père, je peux pas me faire passer pour Essav, etc. Si tu dois, elle lui a même pas dit c'est toi qui dois faire. Elle a dit que ton créateur, Yakum Lecha. Là, elle n'a pas pu dire évidemment à Moshe, débrouille-toi, Hachem, que Hachem t'aide. Hein. Et alors, il se passe cette chose extraordinaire. Materet bat paro lichotz alay or. Donc la fille de paro descend pour se laver. On dit qu'elle se lave de l'idolâtrie, elle sort de l'idolâtrie paternelle. Venarotea olchot aliad or. Elle se promène avec ses dames de compagnie, je sais pas quoi. Vatéren ta teva, betochasouf. Et elle a vu la boîte en question dans les roseaux. Vatishlach et amata. Et littéralement, elle a envoyé sa servante. Servante, ça se dit ama, mais ça veut aussi dire son bras. Et elle, qui a pris la boîte. Alors, Rabbi David dit, Narotea, Shelbat Paro, Kanire, Loratsu le Tochamaim. A priori, les dames de compagnie de Bat Paro, elle est descendue pour se laver. Mais les dames de compagnie, elles marchent au bord du fleuve. Elles ne sont pas entrées dans l'eau. Elles sont au service de la princesse. Mais on peut se demander pourquoi elles n'entrent pas dans l'eau. Si elles avaient protégé la princesse, si la princesse, je sais pas, elle est tombée dans l'eau, elle devrait être sur place. Pourquoi elle reste sur le bord? Faut se souvenir que le Yor, en fait, c'est une idole égyptienne. Le Nil. Toute l'Égypte repose sur cette idole qui leur apporte la nourriture. On est avant le barrage d'Assouan. Vafechad loéis panav likanes. Or, c'est pas comme le Gange. Semble-t-il, dans le Nil, personne n'osait entrer. Parce que je pense que si c'est une idole qu'on sert, on peut pas aller se laver là-bas. Je veux dire, d'une certaine manière, quand on dit qu'elle allait se laver là-bas, ça veut dire qu'elle le traite plus comme une idole. Hein? Elle, pas elle. Elle est dedans. Oui, non, parce que ça, ouais, mais je crois pas que. On ne peut pas se laver au-dessus du Nil.
C'est le truc.
Paro, dans son rêve, il se voit au-dessus, mais il vient pas au Lorochets. Alors, Bat Paro, alors comment est-ce qu'elle y entre, si c'est une idole? Alors, on dit que Paro, lui aussi, il entrait. Ochez et Tatsmo, le mal amisé. Pourquoi? Parce que Paro, il se considérait comme au-dessus du Nil. Mais il n'y avait que le roi qui avait le droit de penser cela. Donc, Razal, on dit que, on déduit du fait qu'elle est entrée pour se laver, on déduit chez Yardal le Gaillère, Velitbol. Elle a fait Tvila, de Guillaume, une immersion de conversion dans le Nil. Shelo elle ne croyait pas en l'idole, le Nil. C'est jamais qu'une rivière. Et donc, ce faisant, elle a d'une certaine manière profané la sainteté du Nil. Mais les autres, elles n'osaient pas entrer dans le Nil. Comme si elle disait, nous, on ne peut pas se laver avec toi. Alors, on va rester sur le bord et on va te surveiller, on va te protéger depuis le bord. C'est ça la source de Chazal, pour dire qu'elle était descendue pour se convertir. Alors, pourquoi elle se convertit? Parce qu'elle a vu, elle a vu les nissim qui ont été faits pour les Bnei Israël. Elle a vu que malgré tout ce qu'on faisait aux Bnei Israël, ils n'ont pas réussi du tout à faire ce qu'ils voulaient faire. Plus, au lieu de disparaître, ils se multipliaient. Et finalement, elle a compris qu'il y a quelque chose qui tire les ficelles depuis en haut. C'est pour ça qu'elle est allée se convertir. Et c'est pour ça que le passouk ne dit pas, bah, Teret bat paro, Nechotz betoch ayehor, répondre à votre question. Nechotz al ayehor, v'chi me'olam shamata al mi she'ochetz et atzmo le malam min ayehor. T'as déjà entendu quelqu'un qui se lave au-dessus du Nil? En rochatzin al ayehor, mais la betoch ayehor. Et la pshatu, Chikan, pardon, ici on ne parle pas du tout du fait qu'elle allait se laver concrètement. On parle de l'importance qu'il y a dans le fait que la fille de Paro, elle se lave à l'ayehor, c'est-à-dire chez Ikira, elle a reconnu chez Adam ou Chashuv Yoter min ayehor, que l'homme vaut plus que le Yor. Après qu'elle soit trempée, donc convertie, disons, elle faisait partie des Bnei Israël. Bien entendu que les lois de conversion de l'époque, ce n'était pas les conversions aujourd'hui. Mais bien sûr que Elle a changé. Elle s'est totalement changée. Elle était que Katan Shenolad Dami aussi. Comme un enfant qui vient de naître. Elle est considérée comme israélite, comme une juive. Et maintenant, elle pense comme une juive. C'est pour ça qu'elle sauve Moshe. Kol Israël Chaverim, Veratzal Leitiv Lanu. Elle veut nous faire du bien. C'est-à-dire, je dois sauver cet enfant. Il fait partie des nôtres. Il est donné, il est des nôtres. Mais elle est loin de la boîte. Parce qu'elle, elle n'est pas allée se tremper dans les roseaux. Elle s'est trempée dans l'eau. Et c'est pour ça que elle a dû tendre la main pour prendre la boîte. Mais la main, elle n'était pas assez longue pour l'attraper. Mais la pensée, puisque je suis arrivé jusque-là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Le reste, ça dépend d'Hachem. Elle pense comme une juive, c'est-à-dire, je fais tout ce que je peux. Ma main, c'était probablement dangereux d'avancer dans le Nil. Peut-être que là, elle a essayé de voir est-ce que je suis sur le bon chemin quand je m'occupe de sauver cet enfant? Parce que si, après beaucoup, allonge ma main, c'est-à-dire si on fait, je sais pas, ma main s'allonge ou il y a une vague qui arrive et que, voilà, j'ai la boîte. Yashlim peulata al yada. Si je Hachem fait en sorte que mon effort réussit, quoi. Ah, avec ça, elle saura que c'est le ratson d'Hachem. Vimlav. Et sinon, ben, elle n'arrivera pas à le sauver. Finalement, elle l'a sauvé. Et du coup, elle l'a pris dans le palais de Paro. Donc c'est très difficile à comprendre comment est-ce qu'elle a réussi à cacher un enfant juif dans le palais de Paro. Paro, il aurait su à coup sûr que cet enfant est un enfant d'Ebné Israël s'il l'avait vu. Parce qu'il était circoncis. Il est né circoncis. Mais seulement il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Ma fille, elle veut cet enfant. Mais on va l'élever comme un Égyptien. Jusqu'à ce qu'il devienne Égyptien. Et avec la bonne éducation, on va en faire un véritable Égyptien. L'arviach amon kesef puisqu'il Mitzrayim. Il pourra utiliser la tête juive pour gagner beaucoup d'argent pour les Égyptiens. Donc lui, il pense que Paro savait qui il était, l'enfant, mais qu'il pensait que si on l'élève un peu comme les chrétiens qui s'imaginent que on peut voler un enfant juif, on lui met trois gouttes d'eau et puis ça va faire un bon chrétien, quoi.
Une histoire comme ça, elle n'avait pas fait ça.
Dans la Torah, elle décrit, un peu en amont de cela, elle a ouvert la boîte, elle a vu l'enfant, il y avait un arbre, un enfant qui pleurait, elle a eu pitié de lui, et elle a dit, il fait partie des enfants des Hébreux. On lui dit, en général, quand les enfants pleurent, c'est souvent c'est parce qu'ils ont faim. Mais maintenant, il l'appelle Bithia. Bon, ça veut dire qu'elle était Bat Paro et maintenant elle est Bat Ka. Fille d'Hachem. Mais elle a vu que c'était pas des pleurs ordinaires. Parce que quand elle a essayé de lui donner, enfin, de mobiliser une nourrice égyptienne pour lui donner à boire, il voulait pas boire. Et il continuait de pleurer. Alors, c'est pas marqué dans le passouk, Yeled Boré, un enfant pleure. C'est marqué Naar Boré. Il raata sheyeshkan sechel meachore abechi. Elle a vu qu'il y avait une intelligence derrière le pleur. C'est un pleur intelligent, en quelque sorte. C'est pas simplement une douleur du corps, c'est-à-dire il a eu besoin de manger. Donc elle a vu que c'était pas un enfant ordinaire. Il est déjà un art. Il a déjà du cerveau, il a déjà de l'intelligence pour comprendre que il peut pas manger une nourriture qui n'est pas cachère. C'est pour ça qu'elle dit Mialdé à Ivrim. Donc il veut pas téter d'une nourrice égyptienne. Alors, Myriam, elle a réussi à arranger que ce soit sa propre mère qui nourrisse Moshe. Mais ils ont dû quand même faire une pshara entre eux, parce qu'il fallait quand même que Moshe reste auprès de la fille de Paro, dans la maison de la fille de Paro. C'est que comme ça que il pouvait être sauvé, presque naturellement, de la Xéra de Paro, parce qu'il était devenu égyptien. C'est Bat Paro Amra Lavia, Sherosa la Hametz, et Tayel elle a dit à son père, je veux adopter cet enfant. Mais en vérité, c'est un enfant des Hébreux. Et qu'est-ce qu'un père ne ferait pas pour sa fille? Il était d'accord que l'enfant reste avec elle, donc comme on l'avait vu plus haut. C'est pour ça que c'est marqué, Vaïla le Ben. Il est devenu son enfant, son fils. Elles disent, Shemi, Shemegadel Yatom, Betorbeto, Areu ki ilu yalado. Si on élève un orphelin dans sa maison, c'est comme si on l'avait mis au monde. Befrat kan sheitzila et nafsho. Là, en plus, elle a sauvé la vie. Mais en vérité, on peut expliquer un peu plus. En vérité, l'enfant, cet enfant-là, c'était une aveda. C'est quelque chose de perdu. Et qui dit que pour être appelé Ima, il faut être Davka, la mère qui a mis l'enfant au monde. Les parents, halakhiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait les parents avec cet enfant? Ils l'ont rendu Efker. Elle l'a trouvé. Donc, quand n'importe quelle trouvaille, celui qui la trouve, qui l'acquiert la trouvaille, elle est à lui. Ici aussi, elle l'a trouvée dans l'eau. Donc, il lui appartient, il est vraiment à elle. C'est vraiment son enfant, quoi. Pas au sens de. Une mère, c'est quelqu'un qui peut dire c'est mon enfant. C'est pour ça que elle l'appelait Moshe, parce qu'elle dit, comment est-ce que je suis devenu sa mère? Ki minamay meshitiou, parce que je l'ai tiré de l'eau. Il a été jeté, il était abandonné dans l'eau. Je l'ai trouvé. Et c'est comme ça que je suis devenu sa mère. Elle est vraiment sa mère. Il n'est pas imo ativit, elle n'est pas moins qu'une mère naturelle qui l'a mis au monde. Qui baladea loya nishar bachaim. Parce que sans elle, il n'aurait pas pu vivre. Valiedeshe Sila et Napcho n'incite que Imo. Là, l'avoir sauvée, ça fait d'elle comme sa mère. Vim Shoalim Oto Vechi Ota, par ici, on lui demandait Vechi Yeledze ou Shelach. C'est ton enfant? Vadaï, elle doit dire oui. Je suis sa mère parce que je l'ai sauvée de l'eau, au sens où je l'ai acquis parce qu'il était efker et c'est une trouvaille. Et ensuite, je me suis comporté comme sa mère. Voilà, on s'arrêtait là. Voilà, je voulais vous raconter parce que je trouvais que c'est un peu original. Et c'est un des plus grands maîtres actuels. Pardon?